on passe à l'ouest.
En 1968, Aslan a dû s'exiler du Kosovo à cause de la guerre et ses idées contre la politique pour venir vivre en Suisse. 60 ans plus tard, le voilà de retour dans son village natal de Makermal afin de reconstruire une forme de mémoire collective avec les habitants et habitantes. Le film est en avant-première ce soir au cinéma bio et je suis avec sa réalisatrice, Dea Ginovci. Salut.
Salut.
Et merci d'être avec nous. Alors, t'es retourné avec justement ton père Aslan dans ce village de Makermal. Comment ça s'est organisé ce retour ?
Ce retour s'est organisé autour du tournage du film. Et en fait, à la base de cette histoire, il y a vraiment des souvenirs d'enfance que mon père me racontait et nous racontait à mes frères et sœurs sur son enfance passée dans ce village. Et c'était des récits très beau, très joyeux. Et donc moi, j'avais un peu cette perception-là et cet ancrage-là du Kosovo. Et donc, le film s'est écrit autour de ces récits-là. Et on a décidé de fictionner, en fait, de scénariser finalement ces souvenirs d'enfance. Et donc, quand on est arrivé au village, j'avais déjà, réécrit les histoires d'enfance de mon père avec une idée en tête de pouvoir mettre en scène ces souvenirs avec les habitants du village d'aujourd'hui.
Il y avait quelque chose de particulier pour le choix du moment aussi ? Pourquoi 60 ans plus tard ? Ou bien c'est un petit peu venu au moment où tu as décidé de faire ce film ?
J'avais déjà fait un court-métrage avec mon père en 2017, mais avec ce court-métrage, on avait vraiment juste exploré la notion de... Enfin, il était réfugié politique, donc vraiment, en fait, sa trajectoire de réfugié à la fin des années 60, début des années 70. Et on en était resté là. Et entre-temps, j'ai fait un long-métrage qui s'appelle « Réveil sur Mars ». Et là, j'avais vraiment passé du temps, presque 2 ans, avec une famille de demandeurs d'asile en Suède. Et ça m'a, en fait, cette expérience-là m'a donné envie de me replonger dans l'histoire familiale pour comprendre aussi à quel moment il y a eu ce point de rupture où on a créé une certaine distance avec... où mon père a créé une certaine distance aussi avec le Kosovo. Et de même, moi aussi, en fait, j'avais pas un lien très fort en grandissant.
On va revenir un petit peu plus tard sur cette notion sur ces thématiques et ce retour. Mais pour le tournage lui-même du film, alors t'as fait rejouer certaines scènes que ton père t'a racontées un petit peu par les habitants et habitantes du village de Makermal. Alors c'est un petit peu comme des flashbacks en temps réel où on voit un petit peu ton père raconter et on voit derrière les habitants et habitantes joués parfois par des enfants aussi qui rejouent ces scènes racontées. Elle t'est venue comment l'idée de mélanger un petit peu ces deux visions ?
Disons que la motivation derrière le film, c'était de comment est-ce qu'on recrée un passé dont il ne reste aucune trace dans le présent. Et au Kosovo, il y a plus de 90% des villages qui ont été détruits durant la guerre. En l'occurrence, Makermal aussi a complètement été détruit. Donc, il n'y avait aucune maison d'origine dans le village. Le village avait été complètement reconstruit après la guerre. Donc, pour moi, c'était important de pouvoir ancrer le récit du passé dans le village du présent pour justement contraster, en fait, et montrer aussi, finalement, aux spectateurs un peu cette impossibilité de recréer vraiment un passé ou de le représenter littéralement. Et donc, il faut le réimaginer dans ce nouveau village.
Dans un sens, il y a toujours un petit peu une manière biaisée de raconter les histoires, pour toi ?
Ah oui, biaisée, bien sûr, subjective, je dirais, complètement. C'est une vraie... disons que ce sont les souvenirs d'enfance réinterprétés à travers mon prisme et encore réinterprétés par les habitants et habitantes qui jouent dans le film et qui... eux-mêmes influencent aussi l'interprétation de ces histoires.
Il y avait des défis particuliers pour demander la participation des gens de Makermal, peut-être des tabous aussi, je pense peut-être pour les habitants et habitantes qui seraient plus âgés, qui auraient vécu la guerre, vraiment, peut-être des tabous, des défis particuliers.
Oui, je pense que au niveau des... Au tout début, c'était... assez compliqué, je pense, d'impliquer les adultes dans le processus. Avec les enfants, c'était plus simple parce que on tournait aussi l'été, ils étaient en vacances, et donc une équipe de tournage dans le village qui vous dit on met des costumes et on va jouer dans un film, c'était juste le rêve. Et je pense que ça a pris un peu de temps pour les habitants et habitantes du village de comprendre qu'on était là pour plusieurs semaines et qu'on allait revenir et que c'était vraiment un film sur le long cours et surtout un film sur l'histoire du village, pas seulement sur l'histoire de la guerre ou quoi que ce soit. Et donc, quand ils ont compris ça, il y a eu un changement de regard. Et c'est vrai qu'on a eu beaucoup de personnes qui ont participé au film. Après, on a eu quelques, disons, complications au niveau aussi un peu patriarcal. Forcément, moi, je suis une femme réalisatrice. C'est encore un endroit très, très assez conservateur. Et donc, c'est aussi de les convaincre que moi, en tant que cinéaste femme, j'allais diriger le projet. Ouais.
Alors, ces acteurs et actrices ont joué justement leur père ou grand-père, par exemple. Cette situation d'acteur et spectateur à la fois, ça s'est passé comment pour les habitants et habitantes ?
Je pense que ça a créé un engouement dans le village. Il y a eu plusieurs grandes scènes qu'on a tournées. En l'occurrence, une scène qui datait, disons, des années 60 avec des soldats yougoslaves. Donc, une grosse scène un peu de plus de d'harcèlement. On a eu une scène de mariage aussi. Et donc, par exemple, dans la scène avec ces soldats yougoslaves, il y a eu un vrai public. En fait, le village était là pour regarder cette scène avec les habitants-habitantes qui jouaient dans cette scène-là, les soldats qui ne venaient pas du village, qu'on avait casté autrement, qui venaient de l'extérieur, qui jouaient aussi. Et là, je pense que ça a comme stimulé une parole autour de la guerre et autour des récits de la guerre qui ne sont pas forcément tout le temps partagés.
Ça a peut-être libéré une certaine forme de parole aussi ?
Oui, absolument. Et je pense que cette parole-là, elle a existé à certains moments, mais avec le temps, je pense qu'il y a eu énormément de silence autour de la douleur et de la souffrance aussi de l'après-guerre.
Ces rôles, justement, c'est pour poser une espèce de forme de transmission à travers l'acting, que les gens revivent l'histoire et l'apprennent par la même occasion ?
Oui, c'est vraiment un peu le fond de ce film, c'est vraiment la transmission intergénérationnelle. Donc on a des enfants qui jouent dans le film, qui ont 10-11 ans, qui n'ont pas du tout connu cette période du Kosovo. Et puis on a aussi les personnes les plus âgées qui ont joué dans ce film, avaient plus de 80 ans. Et donc dans la préparation des scènes, la cohésion des scènes, même l'entre-scène durant le tournage où les gens peuvent parler, c'est vrai qu'il y avait cette vraie transmission entre eux des histoires du village et donc entre cette plus jeune génération et les aînés finalement. Et c'est vrai que l'impact d'une guerre sur un village, en tout cas sur Mokemal, fait qu'il y a eu énormément après la guerre, disons, d'individualisation un petit peu, et donc une forme de distance entre les familles, et surtout les centres culturels, un peu les endroits où les gens pouvaient se retrouver ont été brûlés. Et donc c'est vrai qu'on a, à travers le film et ces zones, un peu de ces espaces de tournage qu'on a créés, on a pu renouer avec un dialogue de village assez fort, quoi.
En termes de, peut-être, de mémoire, t'as noté peut-être une différence, on va dire, d'accueil de cette histoire entre le moment où t'as appris un petit peu tout ce que ton père t'avait raconté et puis quand les habitants et habitantes ont aussi écouté ce que t'avais à dire, quand t'avais des indications, des instructions de jeu à leur donner ?
Je dois dire que par exemple pour les enfants, j'ai eu très peu d'indications de jeu à leur donner, parce que finalement la plupart des enfants avec lesquels on a tourné sont les fils et filles des bergers du village. Donc on a tourné avec beaucoup de bétail, avec des moutons, des vaches et tout, et en fait eux, c'est leur vie, donc il n'y avait pas grand chose à faire à ce niveau-là. C'était vraiment, je voulais juste, c'était comme si on les mettait dans un autre contexte, mais c'était eux.
Il y avait toujours peut-être un certain recul aussi par rapport à une situation, je parle pour les enfants en tout cas, peut-être une certaine forme de recul par rapport à une situation qu'ils n'ont jamais vécu.
Et je pense que aussi ils ont une forme de maturité, mais ils ont aussi une forme de, l'enfance les protège aussi énormément, et puis ils ont vraiment compris que le film, c'était un jeu. pour les adultes, c'était différent, parce que forcément ça, chaque histoire que mon père pouvait raconter ou que je ramenais finalement avec le film, venaient confronter aussi leur mémoire à eux et leurs souvenirs qui pouvaient être aussi assez douloureux de certaines périodes. Mais ça a été super de pouvoir, confronter les récits que j'avais entendus avec ceux des habitants et des habitantes qui, eux, soit n'avaient pas entendu exactement la même chose ou d'autres histoires, etc. Donc ça, c'était vraiment très enrichissant.
On a cette scène, justement, où Aslan est autour d'un feu avec d'autres gens du village, où il parle justement de comment telle ou telle personne a appris ce qui se passait au Kosovo et de manière plus générale avec la guerre de l'ex-Yougoslavie, où Aslan dit simplement qu'il a appris ce qui se passait à travers le téléphone ou à travers les nouvelles. On a presque l'impression, alors c'est peut-être très personnel, mais on a presque l'impression que certains habitants lui reprochent de ne pas avoir été là. Il y a une forme aussi, une sorte de thématique du syndrome du survivant que tu voulais mettre dans ce film.
Je ne sais pas si les... on n'a pas ressenti vraiment de reproches, je pense, au niveau du village, parce que le Kosovo, il faut se dire que durant la guerre, il y a 1 million de personnes qui sont devenues réfugiées sur quelques mois. Donc, c'était énormément de personnes sont parties aussi du Kosovo. Et puis, mon père était déjà parti depuis des décennies. Donc, il n'y avait pas de reproches à ce niveau-là. Mais je pense qu'il y avait sûrement un sentiment de culpabilité de la part de mon père, parce que forcément lui il était parti mais sa famille était restée et c'est sa mère qui a disparu durant la guerre, donc forcément la culpabilité du survivant était là.
Alors justement, toi et ton père, vous cherchez aussi ce qui est arrivé à ta grand-mère, donc la mère d'Aslan, Dinoré. Tu voulais donner aussi une forme d'enquête à ce film en quelque sorte?
Oui, au départ, c'était pas vraiment ce qu'on allait faire. Disons qu'au départ, on voulait vraiment rester sur cet effet un peu miroir entre le passé et le présent. Mais c'est vrai que quand on est confronté à une mémoire, on est confronté aussi à ses manquements et aux absences et aux choses qu'on ne sait pas. Et quand j'ai commencé à faire ce film au Kosovo, en fait, j'ai appris plein de nouvelles choses sur ma grand-mère, déjà sur son existence, sur qui elle était. C'est vrai que mon père en parlait très peu. C'est comme si justement il était un peu bloqué sur ce dernier moment qu'il avait eu au téléphone avec elle avant sa disparition, mais il nous avait donné que certains détails très précis sur comment elle était, ce qu'elle faisait, mais pas vraiment sur sa vie. Et donc étant au Kosovo, j'ai commencé à poser plein de questions, à rencontrer plein de personnes de la famille qui m'ont vraiment donné un peu, qui m'ont incarné en fait ma grand-mère. Et c'est à travers ces dialogues-là aussi qui m'a semblé nécessaire d'aller plus loin en fait sur l'enquête derrière ce qui s'était passé avec sa disparition, mais aussi pour comprendre si un jour on allait pouvoir retrouver les restes de... Ouais.
On t'entend dire justement à un instant du film en voix off, je me suis beaucoup accroché à l'histoire, donc l'histoire qu'on te racontait de ta grand-mère, mais aujourd'hui cette histoire ne me suffit plus. Cette recherche de ce qui est arrivé, cette enquête de mémoire en quelque sorte, c'est quelque chose que tu pensais peut-être appliquer à travers un message peut-être plus général au final de ce qui s'est passé pendant la guerre du point de vue de personnes exilées, expatriées?
Oui, absolument. Je pense que pour moi, c'était devenu un peu comme un vrai besoin en fait de savoir et de connaître la vérité. Une fois qu'on ouvre un peu la boîte de Pandore, on peut pas. Voilà, on sait qu'il y a quelque chose derrière. Il faut qu'on connaisse exactement, qu'on sache exactement ce qui s'est passé. Je pense que au niveau de l'exil et de l'impact que ça a, j'ai l'impression que surtout avec la diaspora albanophone ici en Suisse, je pense qu'il y a plein de récits croisés à ce niveau-là. Et j'ai commencé là les projections en salle et les avant-premières. Et c'est vrai que beaucoup de personnes se retrouvent en fait dans le récit de mon père et cette enquête qu'on mène avec ma grand-mère. D'ailleurs, il y a même une association de soutien à Genève qui essaye de pour les personnes qui ont des personnes dans la famille qui ont été des disparus forcés, quoi, des disparitions forcées. Une représentante de cette association est venue voir le film et puis justement elle m'a dit que voilà, c'était encore très présent dans leur communauté et qu'elle serait ravie de montrer le film aussi là-bas.
Un film donc sur la mémoire collective au sens très large, La beauté de l'âne, en avant-première ce soir au cinéma Bio à 20h. Déa Ginovsi, je rappelle que t'es la réalisatrice et la productrice de ce film, en plus d'être aussi actrice, on te voit aussi dans le film. Merci beaucoup d'avoir été avec nous.
Merci beaucoup, Lina. Radio Vostok.
Let's Rock.